trouvé extrêmement intéressant, et qui va se traduire immédiatement après après novembre 18 par l'expulsion massive d'ouvriers lorrains. Il faut savoir qu'une grande partie du prolétariat lorrain à cette époque est formé de Sarrois ou d'Allemands. Il y a une importante main-d'œuvre immigrée. Donc à travers notamment les fameux commissions de triage, hein, ils vont être systématiquement expulsés. Et ils sont ensuite remplacés d'ailleurs en général par des ouvriers italiens. On fera appel à une autre main-d'œuvre moins politisée. Et donc il y a des wagons entiers d'ouvriers. En général, on a surtout les bourgeois, enfin les fonctionnaires strasbourgeois qui sont chassés de l'image à laquelle, etc., qui se font conspuer. Mais il faut savoir que, par exemple, en Lorraine, c'est des milliers d'ouvriers qui vont être expulsés pour mettre un terme à ce mouvement. Alors ensuite, on attend l'arrivée des troupes françaises. Les troupes françaises, effectivement, l'état-major changera ses objectifs, accélérera, disons, son mouvement vers l'Alsace. Ceci dit, entre-temps, bon, toujours grande mobilisation, en particulier à Strasbourg, avec de grands débats sur l'avenir du mouvement. Premier élément, la plupart savent bien que le rapport de force, pas que la guerre est perdue, hein, la guerre est perdue et que de toute façon, vraisemblablement, malgré ce qui a pu être dit, notamment sur le droit à l'autodétermination, etc., et les 18 points de Wilson, que vraisemblablement, la France va récupérer l'Alsace. Donc, dans le débat, il y en a très peu qui remettent en cause cette perspective. Huit grands meetings qui sont organisés à Strasbourg le 17 novembre par les conseils de soldats et d'ouvriers, où on débat avec ces conseils de soldats et d'ouvriers de l'avenir de l'Alsace. Alors on peut dire que ça, il y a cinq grandes positions. Il y a une première position, effectivement, il y a une partie des sociodémocrates alsaciens qui, d'origine allemande, qui voient ça très mal. Pour eux, ça fait très mal à la droite du parti et qui acceptent mal ça, sont imprégnés de nationalisme allemand et ça se traduit notamment, c'est la position du député de Mulhouse, Hemmel. Hemmel va détruire, par exemple, avant de partir, détruire les rotatives du journal socialiste de la Volkszeitung de Mulhouse. Ça, c'est première attitude. Qui est une attitude. Alors après, c'est difficile à mesurer. On n'a pas tellement d'éléments pour mesurer, mais c'est un courant qui existe. Ensuite, il y a ceux qui disent que la bataille est perdue, que la France, que de toute façon, va redevenir français, mais qu'on doit continuer à développer la lutte. Les camarades, ça c'est par exemple la position de Rebholz, qui est le chef du conseil d'ouvriers passeur de Schiltigheim, qui dit: les camarades socialistes qui repassent le Rhin se consoleront en pensant que la propagande internationaliste continuera en France. C'est-à-dire qu'on reste sur des positions révolutionnaires, mais on va continuer l'action dans le cadre français. C'est aussi la position d'Eugène Ims, qui est lui sur une ligne qui est le chef des syndicats strasbourgeois, qui va jouer un rôle ensuite important. Il dit: mais c'est quand même une bonne chose que ce mouvement révolutionnaire, puisque ça va permettre une réconciliation entre la France et l'Allemagne. La grande révolution de ces derniers temps permet d'envisager de nouveau l'avenir avec un sentiment de joyeuse espérance. Donc, ça, c'est une partie du mouvement socialiste qui se réjouit quelque part se retrouver dans le cadre français. Alors il faut savoir qu'effectivement il y avait une forte emprise, disons francophile, entre guillemets, dans la social-démocratie alsacienne, mais pas nécessairement dans une perspective nationaliste. C'était plus deux considérants. La première, c'est que la France, c'est le symbole de la révolution des droits de l'homme, etc. Donc, d'une tradition humaniste et qui est l'une des valeurs d'une partie aussi de la social-démocratie allemande. Et aussi, d'ailleurs, d'une partie de la grande bourgeoisie allemande. Vous savez qu'il y a des grands bourgeois allemands, en particulier de la bourgeoisie intellectuelle du Nord, qui sont venus s'implanter en Alsace, parce qu'ils considéraient que c'était un cas absolument presque d'école, qui permettait effectivement de mêler une tradition, démocratique française, et puis, ce qu'il y avait de meilleur dans l'Allemagne. La figure la plus emblématique, ou enfin ça donnera une figure extrêmement emblématique, même pour le XXe siècle, je pense que c'est Curtius, hein, Ernst Robert Curtius, qui est l'un des grands représentants des études de romanistique en Allemagne. Sa famille était exactement, ils viennent de Hambourg ou du nord de l'Allemagne, ils viennent exactement dans cette... ils viennent exactement dans cette perspective. Donc il y a cette idée, effectivement, d'image, d'une certaine image de la France. Et puis autre chose qu'ils ne disent jamais à ce moment-là, on va voir d'ailleurs des contradictions, les socialistes se disent, ça, on va pouvoir enfin faire la peau au centrum, c'est-à-dire son principal adversaire sur le plan politique, c'est-à-dire au centre catholique, puisque avec les lois laïques, ça va nous permettre de renforcer nos positions et de faire reculer l'emprise de l'Église sur les masses populaires. Donc, c'est tout bénef. On va se retrouver dans les traditions démocratiques de la France, qui considère comme un acquis en tant que sociodémocrate, même allemand, dans le mouvement ouvrier allemand, et puis ensuite, effectivement, ça va nous permettre d'avancer sur la question de la laïcité, d'où les perspectives joyeuses de Hinz. À côté de ça, on a position plus radicale. Alors, la plus radicale, c'est celle de Wendelin Thomas, cet ouvrier alsacien qui, à partir, je crois que c'est en 11 ou 12, est parti travailler dans le nord de l'Allemagne, et qui va être l'une des grandes... J'insiste sur sa figure parce qu'elle est assez extraordinaire, puisque Wendelin Thomas, après avoir, une figure dans aucun manuel et dans aucun article, dans tous les cas de littérature publiée en Alsace et même en dehors, ensuite il va être extrêmement actif dans le mouvement des conseils en Bavière, c'est-à-dire qu'il va continuer la révolution de l'autre côté du Rhin. Et il faut savoir qu'il y a quand même des centaines de militants alsaciens qui ont opté quelque part, à cette époque, pour l'Allemagne, sur la base de considérants, révolutionnaires. Ou alors parce qu'ils étaient permanents syndicaux et qu'ils n'avaient pas tellement d'avenir dans le cadre français, ils ont continué leur carrière dans le cadre du mouvement syndical, allemand. Lui, Thomas, ça va être une carrière révolutionnaire, puisqu'il va être très actif dans le mouvement des conseils de soldats et d'ouvriers en Bavière. Il va ensuite être député, élu à deux reprises député communiste, il va être emprisonné, ensuite il va avoir quelques démêlés avec le parti communiste allemand sur des clivages, en termes d'options politiques, c'est-à-dire que l'option, c'est plus l'option révolutionnaire, il va être amené à se réfugier aux États-Unis, il a gardé des relations étroites, notamment avec les syndicats marins révolutionnaires, et... aux États-Unis, il continue à militer et il fera partie de la fameuse commission Dewey qui est réunie pour examiner le cas de Trotsky lorsque Trotsky est traduit, et la gauche, l'opposition de gauche en Union soviétique est poursuivie par Staline. C'est un philosophe pragmatique. Spécialiste de pédagogie qui est extrêmement intéressant et qui prend l'initiative de regrouper un certain nombre de témoins ou de grands témoins pour examiner le cas Trotsky, et il l'examine d'ailleurs sur le mode contradictoire, avec des témoignages, des enquêtes un peu partout. Ils vont interviewer notamment Trotsky à Caillou-Can, etc. Bon, ils déclareront Trotsky non coupable, mais en mettant un certain nombre de réserves. D'ailleurs, Wendelin Thomas va porter ça va très loin, puisque notamment est examiné de très près l'affaire de Kronstadt. Vous savez que Trotsky a fait intervenir l'armée rouge contre les marins de Kronstadt, qui avaient été le fer de lance de la révolution à Saint-Pétersbourg, et Wendelin Thomas interpelle vigoureusement, dans la tradition, anarcho-révolutionnaire, Trotsky sur le rôle qu'il a joué pendant cette période. Il y a toute une série de textes de Trotsky qui répond aux arguments de Wendelin Thomas, qui finira sa vie de révolutionnaire professionnel au Chili. C'est-à-dire qu'on retrouve sa trace, il est ensuite, après-guerre, au Chili, dans une publication. Vous savez qu'il y avait une communauté allemande extrêmement importante au Chili, avec une presse, et notamment une presse de gauche, et il participait à cette presse, disons, de gauche, de langue allemande au Chili. Donc ça, c'est pour Wendelin Thomas. Wendelin Thomas, en plus, c'est continuer la révolution. Il n'est pas le seul, encore une fois, sur cette position. Il y en a une petite... Bon, je reviendrai ensuite. Et puis la dernière position, c'est celle du futur maire de Strasbourg, Hubert, hein, qui ensuite ralliera l'autonomisme, va scissionner à la fin des années 20. Il parle, lui, pour les Alsaciens, d'un peuple libre et plein d'idéal qui répondra cet idéalisme de l'autre côté des Vosges. C'est-à-dire que, lui, il voit, l'Alsace continuera à porter dans le cadre français le message révolutionnaire, dans ce qui d'ailleurs se traduira dans les faits, puisqu'ils vont jouer un rôle important dans la constitution du Parti communiste en Alsace. J'y reviendrai tout à l'heure. Quatrième point, je ne sais pas si vous avez noté un des points, mais c'est pour moi c'est le quatrième. Non, mais c'est juste comme ça des flashs. Alors, les troupes françaises arrivent. Accueil triomphal. Hein, et surtout soigneusement mis en scène. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène absolument extraordinaire, en particulier à Strasbourg. Le Fritz Kiefer, c'est un spécialiste, comment dire, un génie de la propagande, et il faut une mise en scène, alors avec... n'est pas utilisé comme matériau historique. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, c'est l'Alsacien qui accueille triomphalement l'Alsace, point à la ligne. Si on regarde, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, je m'étais intéressé à l'organisation des vitrines, mais c'est vrai à Strasbourg aussi, des vitrines dans les magasins. On fait des vitrines, hein, avec toute une série d'objets qu'on garde. Voilà, on va chercher ça dans le grenier, on sort l'uniforme de l'arrière-grand-père, du grand-père qui était avec Napoléon, qui a fait les guerres de l'Empire, les casques des pompiers, parce qu'ils avaient pu garder leur casque après 70 de pompiers de la période française. Donc toute une série de reliquaires, véritables reliquaires, avec toute une série de rituels. Il y a toujours le coup avec le schnapps qu'on a gardé pour quand les Français. C'est donc tout un récit. Alors j'avais juste vous dit, et j'avais regardé en particulier les discours qui sont tenus, parce qu'il y a des discours partout, hein. Donc c'est ce qu'on a appelé l'éblouissement tricolore. Donc j'ai fait analyse structurale du discours, ça donne en gros ça. Il était une fois une petite fille avec un cœur gros comme ça. On ne nous dit pas son nom. Est-ce vraiment la peine? Elle est là sur l'estrade, un bouquet à la main et un costume d'Alsacienne. Comme toute petite fille bien élevée, on parle en son nom. C'est-à-dire qu'on ne lui donne jamais la parole. Bref, cette petite fille qui est là, silencieuse, comme toute bonne petite fille, aimait beaucoup sa maman, qui s'appelle Patrie, mère Patrie. C'est un drôle de nom pour une maman que Patrie. On l'appelle aussi France, à moins que ce soit son prénom. Mais voilà, un grand malheur s'est abattu sur elle, sur sa famille. La petite fille a été arrachée à sa maman par quelqu'un dont on ne lui dit jamais le nom. Il est parfois désigné comme l'innommable. La petite fille, ravie par l'innommable, a beaucoup souffert, mais elle est restée fidèle à sa maman. C'était un véritable cauchemar. Heureusement, un jour, le sauveur, le libérateur est arrivé. C'est la délivrance, la libération, le jour de gloire. La petite fille est enfin rendue à sa maman. dont on nous vante les nombreuses qualités. Désormais, un avenir radieux est promis à la petite fille. Celle-ci est naturellement pleine de gratitude. Elle a une dette de sang. En gros, mais j'ai pris au moins une centaine de discours. Hein, à chaque fois le même récit avec très peu de variations qui se met en place. Donc il y a toute une idéologie qui se construit, qui se cristallise, hein, et toute une représentation. Le problème, c'est que quelque part les autorités françaises vont se laisser prendre au piège, ou au miroir de ce discours de propagande qui, quelque part, ils ont fabriqué. Ça se traduit par la fameuse formule de Poincaré, hein, sur le 9 décembre, sur Poincaré arrive, visite du président de la République, il va sur les balcons de l'hôtel de ville et il dit le plébiscite est fait. Ça renvoie à la promesse qui avait été faite, qui était dans les 18 points de Wilson, qu'un référendum devait être organisé pour savoir ce que les Alsaciens et les Lorrains voulaient faire. Donc, comme il y a un accueil tellement triomphal, etc., c'est pas la peine. Oui, je finis, j'étais sûr. Alors, derrière, est-ce que tout le monde participe à la fête? C'est pas sûr que tout le monde participe à la fête. Donc, si on regarde bien le compte rendu de l'époque, de la presse, ou certaines manifestations, il y a une partie de la population qui reste sous l'uniforme. Hein, ils sont encore loin de chez eux, ils rêvent de rentrer, mais ils sont à côté. Et même ceux qui sont démobilisés, souvent, restent à côté de ces manifestations. Il y a toute une série de notations qui disent, ben voilà, le soldat qui est rentré, qui a pu revenir déjà chez lui, ou qui a été démobilisé parce qu'il était en Alsace, il y en avait quand même quelques-uns qui étaient en Alsace, mais ils tiennent un peu à côté. Ensuite, on note que, effectivement, comme l'a rappelé Armand tout à l'heure à travers la citation qu'il a faite, une partie de la paysannerie alsacienne est extrêmement réticente. Le vignoble. Dans le vignoble, on a très peur de la concurrence française. Il faut savoir que ça a été une période de prostérité considérable pour l'ensemble du vignoble alsacien, avec la période d'annexion. On a fait du vin en grande quantité, on a étendu les surfaces, on a profité, à plein du marché allemand. On craint que maintenant on va être confronté à la concurrence plus directe du marché français. Les viticulteurs sont extrêmement réticents. Puis ensuite, il y a aussi évidemment, il y a tous les fonctionnaires allemands qui savent qu'ils n'ont plus tellement d'avenir, même s'ils sont très attachés pour certains à l'Alsace, et qu'ils y sont venus, par exemple, puisque j'ai donné, pas nécessairement dans avec des objectifs, colonialistes, ou de domination, ou d'annexion à tout prix, mais sur la base d'un projet plutôt émancipateur et démocratique, ils savent à peu près qu'ils vont être obligés de partir. Et puis, il y a, en général, une paysannerie qui est relativement réticente. On peut le voir à travers la prise de position de leurs représentants au National Rat. Je n'en ai pas reparlé, mais je vais en reparler au Conseil national. Les circonscriptions, en particulier d'Altkirch, de Trüchtersheim, de Masevaux, de Sarre-Union, les représentants de ces circonscriptions vont manifester à plusieurs reprises et insister, sur le fait qu'il faut faire attention à tout triomphalisme et exprime des réticences par rapport à toute déclaration solennelle saluant le retour de l'Alsace à la France. Et puis on cite aussi certains secteurs, ça c'est pour Charles, du protestant du nord de l'Alsace, qui manifeste, la région où fortement marquée par les traditions, piétistes, etc., qui manifeste effectivement qu'ils sont très imprégnés, de culture protestante et allemande, qui manifeste aussi certaines réticences. Donc il y a des secteurs quand même non négligeables de la population qui ne participent pas à cette liesse, plus, et auquel il faudrait ajouter, effectivement, pour une grande partie des sur les couches populaires, effectivement, la préoccupation. Et c'est là aussi que l'armée française fait une opération remarquable, en meurt de faim. Donc, l'armée française arrive, et ça c'est très bien fait, avec quoi? Avec du pain, et en plus du pain blanc, et du vin rouge. Ça va marquer aussi profondément la population, et ça va structurer d'ailleurs pain blanc contre pain noir, etc., par rapport aussi à une certaine imagerie de la France. Ceci dit, les conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire que en dehors des quelques distributions, comme après les Américains à Libération vont distribuer des chewing-gums, quelques pains, mais ça ne règle pas la question du ravitaillement. Et donc très rapidement, les rationnements et puis grève, etc., pour sur les salaires qui n'ont pas été payés, sur des revendications d'augmentation de salaire, en particulier dans le... etc., etc. Donc voilà, donc il faut mesurer effectivement les limites, de l'adhésion, où ça doit être relativisé, même si on n'a pas suffisamment d'éléments pour être plus précis. Comment ça va se traduire ensuite? On va très rapidement...
S'il vous plaît,
pas de photo. Je termine. Alors après, j'arrête. Je laisse tomber les histoires. Je suis sûr que vous allez m'interpeller là-dessus, donc sur l'avenir du Conseil national, du plébiscite qui n'a pas eu lieu, ce sera la première. Non, mais juste après, puisque c'est souvent une question, quelle conséquence du mouvement révolutionnaire ou pérennité du mouvement révolutionnaire? En tout cas, c'est la question qui... Il faut savoir qu'au-delà de ce mouvement, ça va se traduire par, effectivement, pendant 2 ans, tant en Alsace qu'en Lorraine, il va y avoir des grèves absolument incessantes, avec l'acné du mouvement gréviste pour toute période confondue, y compris 68, en termes de mouvement gréviste. Par exemple, à Strasbourg, il y a tous les ateliers, par exemple, d'ouvriers tailleurs qui, en 1920, vont se mettre en grève. C'est des tout petits ateliers. Dans la vallée de la Bruche, il y a énormément de petites entreprises du textile. Elles se mettent toutes en grève au cours de l'année 20. C'est-à-dire 19-20, ça va être pratiquement des mouvements ininterrompus de grève qui vont amener d'ailleurs l'armée à intervenir plusieurs fois. J'ai cité le cas de la Lorraine, et là ça va être particulièrement dur, puisque avec accompagné de ces expulsions massives d'ouvriers allemands, mais il y a aussi par exemple des affrontements à Colmar, dans les rues de Colmar, et si la situation ne se radicalisera pas, ça va être en partie grâce au commissaire qui a été nommé Millerand, et d'origine socialiste, même si c'était la droite socialiste, qu'on appelait les ministérialistes, ceux qui acceptaient de participer au gouvernement, qui connaît en plus très bien le monde ouvrier et qui va utiliser toutes ses relations, les relations qu'il continue à avoir avec les socialistes, pour qu'il joue un rôle de médiateur et qui calme le jeu. C'est-à-dire qu'il va obtenir effectivement que les syndicats alsaciens que les municipalités se mobilisent pour faire reprendre à chaque fois le travail et que ça ne dégénère pas pendant cette période extrêmement tendue. Et je finis avec ça, alors peu à peu on remet en place des institutions, les Alsaciens sont extrêmement déçus parce qu'évidemment les promesses qui avaient été faites d'autodétermination n'ont pas été respectées, mais surtout les promesses, c'est là que je veux revenir, j'arrêterai là-dessus, les promesses des chefs militaires français qui ont tous dit qu'ils avaient respecté et que la France serait respectueuse, et ça a été asséné, répété pendant toute la guerre, respecter les libertés, les libertés alsaciennes, parce qu'on parle de liberté alsacienne, je vous donne la résolution qui est votée. C'est l'une des dernières résolutions votées par le Conseil national, qui est une résolution qui a mis beaucoup de temps à être adoptée, puisque certains proposaient de reprendre des termes beaucoup plus durs, en particulier Ritlin et une partie du centre catholique qui s'est battu bec et ongle pour qu'on parle des droits des Alsaciens. C'est pas cette position qui est, et c'est une position, comment dire, médiane, négociée entre la partie la plus francophile, enfin pas nécessairement d'ailleurs, la partie centriste et francophile du centre catholique, et en particulier les Lorrains, hein, le fameux bloc Lorrain, hein, c'est les blocs Lorrains et c'est Perrot qui rédigent malgré tout la résolution qui est votée par les socialistes soutiennent. Hein. Donc, pour donner les députés d'Alsace-Lorraine ici du suffrage universel et constitués en Assemblée nationale, hein, saluent avec joie le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France après une longue et cruelle séparation. Nos provinces seront fières de devoir à la mère patrie retrouver, on retrouve la rhétorique des discours, patrie retrouvée avec la sauvegarde, c'est dans le texte, proposé par Perrot, hein, c'est rédigé par lui, de leur liberté, de leur tradition, de leur croyance, qui lui a été solennellement garantie par les chefs de l'armée victorieuse, une nouvelle ère de prospérité et de bonheur. Donc c'est une revendication qui reste et auquel continuent à souscrire, à ce moment-là, y compris les socialistes. Donc il y a quand même un large consensus sur le fait qu'on ne doit pas appliquer le droit commun à la région, à l'Alsace et à la Lorraine. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas, c'est plutôt un régime de dictature militaire, hein, parce que agitation sociale, le pouvoir est extrêmement grande présence des militaires, tant en Lorraine qu'en Alsace. Et alors là, je voulais vous lire une dernière citation, mais évidemment, je ne vais pas la retrouver, qui est une citation de l'une des grandes figures du socialisme alsacien, qui est Salomon Gombard. Un Salomon Gombard au congrès de février 19 dénonce en congrès national de la SFIO la dictature militaire et le régime d'exception appliqué à l'Alsace. Alors que c'est parmi les représentants les plus francophiles de la social-démocratie alsacienne. Pour donner juste une idée du degré de tension, ça se traduit d'ailleurs matériellement par le fait aussi qu'au congrès, lors de la scission de Tours, aussi bien en Lorraine qu'en Alsace, Bas-Rhin et Haut-Rhin, les partisans d'adhésion à la Troisième Internationale sont majoritaires, hein, très largement majoritaires, 100% de vote en Moselle, 78 ou quelque chose comme ça de mémoire dans le Haut-Rhin, et en Alsace c'est un peu, dans le Bas-Rhin c'est limite, puisque c'est entre 48 et 52, c'est un peu trafiqué les... c'est le contraire, c'est dans le Haut-Rhin où c'est un peu trafiqué. Je ne sais pas si c'est 48 ou 52, c'est, alors, rappelez-vous au niveau des votes, il y a eu des négociations, on a adapté un peu les chiffres. Et même chose au niveau syndical, l'essentiel des forces syndicales vont adhérer, lors de la scission syndicale, donc en 23, à la CGTU, c'est-à-dire à ceux qui sont partisans de la troisième internationale. Et c'est un apport considérable, puisque c'est, on rappelle, 140 000 syndiqués, et pratiquement l'essentiel de ces militants vont passer à la CGTU. Alors, les seuls secteurs qui ne vont pas adhérer à la CGTU, qui vont adhérer à la CGT, ça va être dans le secteur des employés, des fonctionnaires qui vont rester, et surtout des fonctionnaires venus de l'intérieur qui vont faire pendant longtemps le gros des forces socialisme, du Parti Socialiste en